propose qu'on aborde la dernière page de cet atelier, 35e du nom, consacré à la peinture en France au XVIIIe siècle. Et vous savez qu'après avoir vu Watteau, Boucher, Chardin, Fragonard, nous avons aujourd'hui le dernier des peintres au programme, un peintre d'ailleurs à cheval sur le XVIIIe et XIXe siècle, qui n'est autre que David. C'est donc lui qui est au programme du jour. Et comme d'habitude, je vous montre sa frimousse, que voilà Jacques-Louis David, peint par lui-même en 1794. Si ma mémoire est bonne d'ailleurs, cet autoportrait a été fait en prison. Parce que 94, vous le savez, c'est une période un peu particulière. Et Jacques-Louis David a eu un certain rôle à cette époque-là. Je crois que c'est en prison qu'il a réalisé cet autoportrait. Mais comme d'habitude, nous allons organiser cette séance en plusieurs temps. Vous connaissez ça, hein ? Et le premier temps va avoir pour but d'évoquer l'œuvre de cet artiste à travers une sélection d'une quatorzaine d'œuvres de peintures. Donc vous connaissez le principe. Je les ai mélangées dans un ordre désordonné. La question va être de remettre ça dans le bon ordre. Alors je vous montre sans aucun commentaire une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois ces peintures que vous emmagasinez. Et après, le but sera de les remettre dans l'ordre, ce qui nous permettra de retrouver la chronologie de l'œuvre de l'artiste et de voir quelle est l'évolution de son travail. On y va ? Prêt ? On y va. Bien. Le bien avec David, c'est qu'il y a beaucoup d'images que l'on connaît.
Oui, oui.
Et après, il faut le mettre dans le bon ordre. Et voilà. Et on recommence en sens inverse. Et une troisième fois, ce sera à mon avis plus facile que pour Fragonard d'organiser ça. Enfin, je pense. Non ? Pas sûr. Ah bon, pas sûr. Pas pour vous. Ok. Bien, bah, écoutez, on va voir. Une troisième fois, vous emmagasinez et on en reparle. Et voilà. Bien. Vous voyez, c'est très simple. Alors, maintenant que vous avez vu ces 15 œuvres, comment est-ce que vous organiseriez, structureriez l'ensemble des œuvres que nous allons voir ?
On pourrait dire avant, pendant et après la Révolution.
Eh bien, peut-être.
Ça ne suffit pas. Tout ce qui est historique.
C'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est un. Une première structure possible. Hein.
Mais peut-être au début les scènes mythologiques,
religieuses. Vous pensiez à.
Dans les scènes religieuses au départ.
Oui, c'est vrai.
Les scènes religieuses, les scènes à connotation mythologique.
Oui, vous avez Vous avez repéré un certain nombre de thèmes religieux, lesquels, par exemple ?
Oui, là où il y a
la Vierge. Oui, alors il y a effectivement. Il fait froid chez vous aujourd'hui.
Non,
pas c'est
rien.
Ah bon.
Le dernier tableau, il me semble que c'est le tableau qui a été reçu pendant le prix.
Alors, est-ce que vous voulez qu'on les regarde ? Après tout, on peut peut-être faire ça. Ce serait peut-être plus simple d'en parler un peu abstraitement. On n'a pas fait ça les autres fois, mais on a le droit de les lire. On peut les repasser, puis après, vous me dites un peu où vous les classez. Puis ça peut permettre de voir quelques questions de thème. C'est peut-être pas mal, ça. On vous va, ça ? Ah ben, on fait ça. Bien. Alors, par exemple, celui-là, vous le...
Celui-là, il me semble que c'est avec ça qu'il a eu un...
Plutôt vers le départ.
Oui, au début.
Et là, vous disiez, Tania, qu'est-ce que vous...
Non, c'est qu'il me semble que grâce à ce tableau, il avait eu le prix de Rome, parce qu'il a, il a postulé plusieurs fois. Et avant d'avoir le prix, il me semble que c'est celui-ci, mais c'est un aveugle, là. C'est un général aveugle.
Bélisère. C'est effectivement ça. Vous connaissez l'histoire ?
Non.
C'est un brillant. Plusieurs étoiles.
Voilà.
Ouais. Qui est devenu aveugle.
Oui.
Abandonné.
Oui.
Et celui qui est derrière, il ne connaît pas.
C'est ça.
C'est un de ses soldats qui le reconnaît.
Voilà. C'est effectivement un général romain qui a été très brillant, mais qui est devenu aveugle, qui a été un peu disgracié avant même d'être aveugle, qui erre sur les routes accompagné d'un jeune guide. Et donc il fait l'aumône, il est complètement déchu, si vous voulez. Et puis un jour, un des soldats qui avait servi sous ses ordres, et qui se rappelle de la rectitude de ce grand personnage, le reconnaît, si vous voyez à l'arrière, qui lève les mains, dit « Ah, c'est lui, quoi !» Enfin voilà. Bon. Bélisère. Très bien. Donc vous mettrez plutôt au départ.
Oui.
Ok.
Ça reste encore mythologie.
C'est aussi plutôt au départ. Là aussi, vous avez une idée de la scène ?
C'est un gars qui est amoureux de sa belle-mère.
Alors... ok.
C'est pas son nom.
Bon.
Et il a été guéri, et puis il s'est marié avec sa belle-mère.
Son père lui a donné sa belle-mère à sa femme.
Il n'y a pas une petite confusion là entre plusieurs choses ? Il n'y a pas un peu d'Impel et Campas et de Antiochus et Stratonis un peu emballé entre les deux ?
C'est l'histoire d'Antiochus. D'Antiochus qui était très malade.
Voilà.
Le médecin se rend compte de pourquoi il est malade et son père, pour ne pas perdre son fils, lui donne sa femme.
Voilà, c'est effectivement l'histoire d'Antiochus. Que vous voyez là, alité, Antiochus est malade. Son médecin qui s'appelle Erasistrate. Hein. Essaie absolument de le guérir de toutes les manières, il lui donne toutes les potions, rien ne marche. L'autre est toujours dans son lit, à se languir, etc. Et puis un jour, il y a la jeune épouse de son père qui rentre et qui passe là. Et quand Erasistrate voit comment Antiochus regarde sa belle-mère, il voit bien qu'en fait, il est amoureux de sa belle-mère, et que puisqu'elle est sa belle-mère, qui est donc ne peut pas aller plus loin, il en est malade. Et c'est comme ça qu'il découvre la maladie d'Antiochus. Et ce que vous voyez là, la belle-mère qui arrive, il y a le père derrière, hein, dans l'ombre. Hein, et vous voyez qu'Antiochus revit, et qu'Erasistrate montre Stratonis, pour montrer que c'est elle l'objet de la maladie. De toute façon... toujours les femmes qui font que les hommes sont malades, c'est bien connu. Voilà. Une fois de plus. Ok. Bien, donc on est d'accord. Et plutôt au départ. Hein. Voilà.
Ça, c'est l'amour de Socrate.
Très bien, l'amour de Socrate. Alors ça, au milieu, au départ. Tout à l'heure, on avait un schéma hein, avant, pendant, après la Révolution. C'est pas mal comme schéma. Et ça ? Avant ? Avant. Ok.
Ça, c'est une...
Après. Après. Là, c'est facile, hein. Mythologie. Ça fait.
Tôt.
C'est ça. Ça fait plus vraiment 18e. Hein. Ça représente quoi ? Je reste assis pour l'instant. Ce n'est pas mon truc de commande des distances. Ça représente quoi, ça? Donc Athéna Minerve à droite, ok. Et l'autre part. Comme vous.
Un soldat
à gauche par terre.
Blessé à mort.
Je
sais pas, il a son épée. Sans casque.
Ah oui, tout ça est par terre. Hein. Il a été flanqué par terre par Athéna Minerve. Hein. Ah, peut-être qu'il a perdu la bataille.
Mais il y a quelqu'un qui est mort sur la droite.
À droite, effectivement.
Alors, est-ce qu'il a tué?
Il y en a deux.
Il y en a pas mal, même. Hein.
Mais c'est l'issue d'une bataille.
Il se passe des choses dans le fond à gauche. Hein.
C'est une bataille.
Donc, il y a toute une bataille, mais là, on voit deux personnages qui se combattent. Et vous voyez donc à droite Minerve Athéna.
Il y a un petit amour
tout en haut. Et il y a une femme entre les deux.
Dans un nuage.
Alors, qui c'est celle-là?
Et qui c'est celle-là?
On connaît, mais on arrive.
C'est pas Vénus, quand même.
Ah, pourquoi pas? C'est une bonne candidate, Vénus. Oh, je vais me lever.
C'est une bonne candidate, parce que Vénus, elle est rarement très habillée, nous sommes d'accord. Alors là, elle est habillée de nuages. À part les nuages, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a un peu de choses qui s'élèvent derrière. Bon, voilà. Donc, ce serait effectivement une bonne candidate. Donc, on aurait à droite Athéna Minerve, au-dessus de Taniéna, Aphrodite, Vénus. Et vous avez par terre ce guerrier.
C'est peut-être sur l'Odyssée, la guerre de Troie.
Ah, peut-être il y a la guerre de Troie.
Parce qu'il y a toujours l'opposition entre Vénus et Minerve et Athéna.
Mm-hmm. Là, ils n'ont pas l'air trop opposés entre nous. Hein.
Non.
Bon, c'est quand même des déesses l'une et l'autre. Entre déesses, on se comprend. Mm-hmm. D'accord. Même si on peut se penser parfois. Bon, donc ce serait peut-être un épisode de la guerre de Troie.
Peut-être.
Oui. Ouais.
Bon. Allez, on continue à caser nos œuvres.
Ça, c'est l'enlèvement des Sabines.
Avant, pendant, après la Révolution.
Avant, pendant.
Ok. Donc, on a toutes les possibilités, comme ça, on a choix. Et ça représente quoi?
L'enlèvement des Sabines.
L'enlèvement des Sabines?
Non, c'est pas l'enlèvement, c'est les Sabines.
Qui séparent les guerriers.
Voilà, en fait, les Sabines ont déjà été enlevées. Vous connaissez l'histoire des Sabines?
Elles ont été enlevées par les Romains.
Vous rappelez l'histoire? Voilà. Vous rappelez l'histoire en deux mots, peut-être?
Les Romains ont enlevé des Sabines.
Parce qu'ils n'avaient plus de femmes.
Les Romains ont enlevé des Sabines. Parce que les Sabins qui vivent à côté de Rome ont de nombreuses femmes, alors que les Romains n'en ont plus. Les Romains viennent, en fait, se battent avec les Sabins et enlèvent des Sabines. D'accord? Et donc les Sabines sont emmenées par les Romains.
Et elles font des enfants avec les Romains.
Les Sabins ne sont pas contents.
Ils veulent vengeance.
Ils veulent reprendre les Sabines. Mais les Sabines ne veulent plus.
Et pourquoi elles ne veulent plus?
Parce qu'elles ont des enfants.
Ah, parce qu'il s'est passé un peu de temps. Et entre le temps, il y a des enfants. Les Sabines sont mariés avec des Romains, puis à la fois, ça ne se passe pas toujours simple. Donc elles font quoi?
Elle s'interpose entre les combattants.
Voilà. C'est une très belle allégorie à l'idée de la paix. Tiens, il faudrait qu'il y ait ce tableau-là à l'Élysée. Montrer que la paix, c'est quand même mieux que la guerre. Il y aura un musée dans pas mal de lieux du monde. C'est vrai. Enfin bref, c'est un très beau tableau qui montre la du coup la concorde.
Voilà.
Bien. Ok. Donc, c'est soit avant, soit pendant, soit après la Révolution. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Bien.
Ah ben ça, c'est Marat, c'est pendant.
Pendant. Pas de problème, ça va. Marat assassiné, un chef-d'œuvre inouï, etc. Bien. Ça, après, of course.
C'est après la Révolution.
Ça, c'est l'esquisse. Hein.
C'est une esquisse.
Alors, c'est une esquisse, évidemment. Ou du moins, c'est un tableau.
Qui
n'a jamais été terminé.
Il a beaucoup travaillé les personnages.
Oui.
Mais
il a des visages.
Et les visages.
Oui.
C'est pendant
un besoin. Ça représente quoi?
Des sans-culottes.
Bien placé.
Ça, effectivement.
La réunion est 3 heures et demie.
Pardon.
Les 3 ordres.
Oui, les 3 ordres au centre. Oui.
Oui.
Donc c'est un tableau fait durant la Révolution qui représente les 3 ordres. Et puis une foule autour.
Oui.
Ok.
Ah, c'est le serment du jeu de paume.
Ah.
Oui,
c'est le serment du jeu de paume.
C'est l'esquisse qu'il a préparé pour ça.
Alors, c'est pas l'esquisse, c'est le dessin. Parce qu'il a fait un dessin qu'on connaît, vous connaissez tous, la présentation de l'homme. Ça, c'est le dessin fait par David, qui devait ensuite faire en peinture. Voilà, la peinture, mais il n'a jamais fini. D'ailleurs, pourquoi?
Le temps est passé,
la révolution ça va vite. Hein. Il y a un tableau qu'on vous commande un jour, 3 mois après, ben en fait c'est fini parce que ça a changé de régime. Bon, ça c'était à l'époque de la révolution, les changements de régime. À l'époque de la révolution, tous les 3 mois on change de régime. Ah, mais c'est la révolution, c'est le barbare.
C'est
ah. Et ça. Avant, pendant, après.
Avant.
Rapprochez, vous rapprocheriez ça de quoi, par exemple?
Athéna
et Minerve, on a vu tout à l'heure. Ok, ça représente quoi, ça?
Il y a des couronnes.
Et c'est quoi ces couronnes?
Oui,
c'est une couronne de laurier parce qu'il a gagné une bataille.
Donc c'est un guerrier qui a gagné une bataille.
Puisqu'il lui donne des couronnes.
Il donne
des trompettes parce que c'est pour les
en tout cas, ça n'est pas nouveau des sangliers. Je le dis.
Pourquoi ils sont nus?
Pourquoi on gagne une bataille toute nue? Parce que c'est grec.
Que le casque.
Ah, parce que c'est grec.
Voilà, c'est grec. On a tout.
Les Grecs qui se battent tout nus.
Mais il y a quand même des trucs bizarres.
Il est au centre, il était là dans une montagne avec une arme.
Et il a une tête quand même d'Assyrien ou truc comme ça.
Une tête d'Assyrien.
Oui, avec son casque là.
C'est une victoire, puisqu'on la célèbre.
Ah ouais, un genre un peu Alexandre arrivant en Babylone.
Alexandre qui arrive à Babylone. Donc une peinture faite par David avant la Révolution.
Oui.
Assez proche de la Minerve tout à l'heure, et son soldat par terre, là, épisode de la guerre de Troie. Donc on met ça avant la Révolution, super.
Ils sont dans une vallée encaissée.
Dans une vallée encaissée.
Dans un canyon.
Dans un canyon. Trois Alexandre dans un canyon.
C'est avant.
Alors là, vous mettez au début, et ça représente.
C'est un roc.
C'est un roc. À quoi vous le reconnaissez?
À son chien.
Il
a un chien.
Si,
dans son genou.
Alors, on voit le genou, mais là, il n'y a pas de plaie pour une fois. Non. Parce que vous savez que généralement, le chien roc montre la plaie qu'il a sur, son, voilà, sur la cuisse au-dessus du genou. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, c'est un roc?
Il supplie.
Et pourquoi?
À cause de la peste.
À cause de la peste. Mais pourquoi lui plutôt qu'un autre? C'est vrai que les saints sont très spécialisés. Saint Roch, c'est celui qui est censé intercéder auprès de Dieu pour lutter contre la peste. C'est pour ça qu'il y a tant de représentations de Saint Roch au Moyen-Âge. Hein. Et loin, qu'est-ce qui montre que Saint Roch, il peut physiquement enfin, être concerné par la peste?
Mais il a lui-même été pestiféré parce qu'il avait guéri.
C'est ça. Et le bubon qu'il a sur la cuisse, c'est ça, justement.
Ah,
il est accompagné d'un chien, ils sont toujours à être accompagnés d'un chien, hein,
Mais voilà, en plus, le chien souvent lui léchait le bubon, ce qui permettait de le guérir.
Il était un peu vagabond quand même.
Ah oui, c'est un vagabond. C'est un pèlerin.
Oui.
Un pèlerin, ça. D'ailleurs, il a, vous voyez, le bâton des pèlerins.
Et puis, c'est la bourse.
Oui, absolument.
La
gourde. La gourde, hein, absolument. Oui, tout à fait. Et alors, il prit la Vierge, et puis autour, qu'est-ce qui se passe?
Oui,
c'est les gens qui l'ont fait. Alors, pourquoi il fait ça, David?
Ah, mais il n'y avait pas une peste à ce moment-là. Si.
Bah oui, à quel endroit d'ailleurs?
Oui, avec tellement.
À quel endroit? Puisque vous dites, là, c'est avant la Révolution. Hein.
Oui,
à Marseille. À Marseille. Il y a eu au XVIIIe siècle une reprise de la peste, très grave, hein, voilà, qui a soudain réapparu. Et donc, il y a eu jusqu'à la fin du XVIIIe, une espèce de récurrence de la peste. Et donc, alors chaque fois, la Vierge a été sollicitée. Hein, et voilà. C'est en particulier, il y a notamment au début du XVIIIe à Marseille une très grande peste. Hein. Il y a des tableaux importants qui évoquent ça. Et là, c'est, j'allais dire, pour célébrer et conjurer ça, que David réalise ce tableau. Très bien. Voilà. Alors, vous me racontez peut-être l'histoire? Le serment des Horaces, ok. Mais à part ça.
Il y a les Curias.
Ah, les Horaces et les Curias. Vous avez lu votre théâtre classique.
Hein. J'ai révisé
avec la petite.
Rome et Gobelet de mon sentiment, oui. On savait aller plus loin autrefois, mais j'ai un peu oublié. Moi. Bon, il se passe quoi en gros?
Il y a trois frères qui doivent se battre.
Oui.
Oui, pour éviter que
trois frères. Il y a une sorte de duel entre deux équipes.
C'est ça.
Ils sont délégués en fait.
C'est
voilà,
ça.
Ils sont délégués par.
C'est ça. Il y a en fait deux duels. Il y a un duel entre deux équipes de trois, les Horaces à côté
et les
Curias de l'autre. Donc là, c'est les Horaces. Hein, voilà.
Et puis les épouses.
Et il y a les épouses qui, évidemment, se lamentent, quoi. Parce qu'elles se disent qu'elles ne vont pas en récupérer.
Et les enfants.
Et il y a les enfants, mais donc, c'est vrai aussi. Bon. Donc les Horaces et les épouses, et le père des Horaces. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font, les Horaces, là, donc?
Ils donnent leur épée.
Voilà.
Non, ils prêtent serment.
Ils prêtent serment. Mais ils prêtent serment et ils disent quoi?
Alors, ils tueront tous.
Voilà.
La mort
est
meilleure que
tout. Bah, voilà, c'est-à-dire que, en tout cas, qu'ils ne quitteront pas, parce que l'idée était de faire se battre trois Curias et trois Horaces, et eux disent que soit ils périront, soit ils vaincront. Voilà. C'est ça le serment. Serment des Horaces. Très grande idée. Voilà. Avant, pendant, après,
la révolution. Après.
Après. On verra ensuite. Hein. Je vous ai déjà montré ça.
Dans l'autre sens.
Voilà.
Ça, c'est encore
un portrait. Pendant, avant, après. Après. Après.
Avec la coiffure, on savait ce
que vous diriez plus qu'avant.
Pourtant, attention,
c'est un peu pendant, parce qu'on n'a pas encore changé complètement le costume, mais ce n'est pas un costume de.
C'est pas un costume 19e.
Du temps de Napoléon.
Donc, pas après, en tout cas, c'est ce que vous dites.
Hein. Un peu pendant, mais.
Ça peut être pendant, on dit.
Oui. Oui.
Ce serait pendant, mais avec un costume un peu vieillot, c'est ça?
Oui, parce qu'on ne change pas complètement.
Ah, ben oui, on ne s'est pas dit en 89, ça y est, on change de mode. Hein. Ouais. Ok.
Mais s'il avait fait des portraits, hein.
Ah oui.
Ah oui.
Il en a fait.
Ah, ça, on va voir, mais je vous laisse prendre. Hein.
Bah, il a fait déjà le sien pendant qu'il était en prison, donc ça a été maîtrisé.
Ça veut dire qu'au moins en 1994, hein, c'est-à-dire de la période révolutionnaire, il fait un portrait de lui, oui. Bon, donc ça, c'est sans doute pendant tôt la Révolution. Pendant la Révolution tôt. Ça vous va, ça?
Oui.
Ouais. Bon.
Ça, je mettrais bien avant.
Bien avant.
Regarde le mobilier.
Il y a les bidons.
Donc ça, au départ.
Le mobilier, il est un peu en train.
Le mobilier,
il est bien qu'il est Napoléon.
Pendant.
Le
mobilier.
L'époque de Napoléon.
Je sens qu'il y a des discussions. Hein.
Ah, ouais.
C'est 1817 ou 1918.
C'est marqué.
Ouais, à droite.
Sur le meuble. Ah oui, vous avez raison. J'aurais dû. Je regarde jamais.
Bon, alors c'est après.
Vous avez bons yeux, hein. Je suis bien capable de le voir.
Ah bah oui.
Donc j'ai l'œil. Donc on voit
un
peu de bon
visage.
Moi, je suis bien capable de le voir. Quand j'ai le nez sur l'écran, même de là, je vois rien.
C'est Cupidon.
Bon, là, il y en a un qui a de bons yeux. C'est déjà ça. Bien. Alors, donc, on le voyait avant, mais en fait, c'est après. Ok. Et ça présente quoi ? Ça, c'est pas marqué. Alors, il y a un petit papillon, oui.
Sa mère, ça, parce que... Un petit papillon jeune.
Avec un petit papillon, oui.
C'est Cupidon. Ou... Ah oui, au-dessus de la nanette.
Oui,
il y a Cupidon, oui, il a son...
Mais elle l'a fait. La dame, ça peut...
Oui, il s'amuse, oui. Il est content. Il est content. Et Cupidon avec qui ? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre que lui et le papillon.
Ah oui, c'est justement. Ah bah on s'interroge.
Voilà. Il y a une dame, quoi. Oui.
Oh, une demoiselle, elle est jeune.
Oui, une demoiselle. On ne sait plus trop. Bon.
Une demoiselle.
Oui. Bien. Je crois que c'était le premier. Hein. Oui. Alors, on ramasse les copies. On voit si on ne s'est pas trop trompé. Hein ? Ah là ! On commence par le plus ancien. Le plus ancien, c'est celui-là. Donc en fait, on est très tôt. Parce que vous aviez raison, hein. Le costume est un costume complètement 18e. C'est un costume 18e. Hein, on est à l'époque de Louis XV et Louis XVI, on est habillé comme ça. Et même plutôt Louis XV d'ailleurs. Hein. Voilà, donc c'est un costume tôt, c'est vraiment un costume 18e. Regardez le petit chapeau, ces choses sur les côtés. C'est vrai, jusqu'à la reliure du bouquin d'ailleurs, un beau papier. Voilà le tour de cou.
C'est presque du Fragonard.
C'est presque du Fragonard, hein, en plus lissé. Voilà. Donc ça, c'est le plus ancien, 1769. Hein. Il n'a pas 20 ans, hein, c'est donc un tableau très tôt. Bien. Très beau tableau par ailleurs. Deuxième tableau, qui représente le combat de Minerve, vous l'aviez bien vu, contre Mars. Ça, vous ne l'avez pas vu. Alors, vous aviez vu quand même que c'était la guerre de Troie. Et là, vous aviez raison, parce que c'est que dans la guerre de Troie, il y a Minerve qui est pour les Athéniens, pour les Grecs, et Mars qui est pour les Troyens. Hein. Et en fait, ils chamaillent tout le temps parce que, voilà, en gros, ils essaient de chacun pousser leur candidat, si vous voulez. Donc, Marcel et Minerve n'arrêtent pas de s'enguirlander. Hein. Et là, vous voyez que Minerve, elle est costaud quand même. Hein. Elle a flanqué Mars, qui est quand même le dieu de la guerre. Mais Minerve a une dimension guerrière aussi. Hein. Elle a flanqué Mars par terre. Et Mars, qui est par terre, il est comme un imbécile, comme ça, qui ne peut pas se relever, demande à Vénus, parce qu'il est assez copain avec Vénus, hein, parfois un peu trop même, il demande à Vénus de venir l'aider pour le remettre debout, si vous voulez. Hein, c'est pour ça que vous avez Vénus, Aphrodite, qui apparaît, parce que Mars lui demande de venir. Bien, autre chose à dire là-dessus ? Non ?
C'est un tableau qui est bien équilibré.
Qui est ?
Bien équilibré.
C'est vrai. Impeccable.
Impeccable.
En diagonale.
Mmh. Tout est bien fait, parfait.
Mais c'est encore le 18e. Hein,
très 18e, vous avez raison. Absolument. Absolument. Très 18e, je suis très d'accord avec vous. Très 18e. Hein. Là, on parle de Fragonard, ça fait beaucoup penser à Fragonard.
Par contre, le thème des Grecs, c'est déjà le.
Oui. Oh, vous savez, rappelez-vous ce qu'on a vu avec Boucher, par exemple. Avec Boucher, on a vu, par exemple, alors c'était moins contondant que ça, mais toujours des rapports entre les dieux. Hein, par exemple, Vénus qui vient chercher auprès de Vulcain les âmes pour aînés, vous vous rappelez, hein,
Donc c'est quand même des choses. Donc alors quelquefois ils se chamaillent un peu les dieux, mais ça c'est chez les dieux, vous savez, j'ai passé les humains. Toujours comme ça que ça se passe, quoi. Et donc bon, on a vu chez Boucher quand même dans les années 40 des choses finalement un peu équivalentes au niveau du thème. Hein. Donc le thème est assez vraiment 18e. Hein. Les dieux, c'est vraiment ça, le haut du pavé dans la peinture en France au milieu du 18e. Hein. Mais vous avez souligné donc le côté très du 18e, vous avez raison, très impeccable, c'est de la peinture, il n'y a rien à dire, quoi. Ça, c'est super. Quoi. Et ça vous suggère quelque chose, ça ?
Peinture de concours ?
Une peinture de concours. Ça, c'est une peinture de concours. Parce que, d'ailleurs, vous l'aviez dit tout à l'heure, hein, David, il a, à plusieurs reprises, passé un concours, lequel ?
Le prix de Rome.
Et cette œuvre, c'est justement un tableau qui a été fait pour présenter le prix de Rome. Sauf qu'il n'a pas été choisi. Bon. Il s'est présenté plusieurs fois au prix de Rome, et à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent, paf, il n'a pas eu. Hein. Là, je crois qu'il a été deuxième ou troisième, parce qu'à chaque fois, il était juste derrière. Hein. Mais cette fois-là, en 71, première fois qu'il se présente ce tableau, on trouve que c'est très bien, mais un peu moins bien que le lauréat, il est en dessous. Bien. En quelque sorte. Le suivant, c'est celui-là. Antiochus et Stratonis. On a vu ce que ça évoquait tout à l'heure. Vous auriez à dire quoi sur cette peinture ? Plein de choses, manifestement.
Tout classique.
Oui. Ouais, si vous aviez, je ne sais pas... 71, 74.
Plus classique. Très classique.
C'est plus contrasté, en tout cas. Ouais. Plus classique, c'est le bon mot, ça ? Moi, je dirais plus néo-classique. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est plus néo-classique ?
Les colonnes, l'architecture.
Oui, la colonne, l'architecture. Il y a vraiment de l'antique, là. Il y en avait avant. Mais avant, c'était une antiquité un peu d'opéra, hein, pour ne pas dire d'opérette. Hein. Voilà, les dieux chamaillent, il y a toujours un petit pouti dans le coin, etc. Des petites colombes, enfin, bien. Là, on est dans du sérieux. Hein.
Même pour les meubles.
Oui, absolument.
Pas seulement l'architecture.
Oui, absolument, tout à fait. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose qui vous semble très néo-classique ?
Stratonis, elle
est habillée comme une... Oui, c'est une statue antique, Stratonis. Hein. Oui. Puis encore une chose.
Par contre, les draperies sur lesquelles le malade, je sais pas,
oui, Antiochus
est allongé, je trouve que ça bouge beaucoup.
Oui, oh, bah, des draperies, surtout si on est alité depuis des jours et des jours comme lui, c'est un peu, vous voyez, hein. Oui, vous avez raison, il y a un peu comme des restes de baroque localement. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est vrai.
Et puis le thème qu'il a cherché, parce que c'est pas un thème hyper connu, c'est pour montrer qu'il connaît ses classiques.
Est-ce qu'il l'a cherché ?
C'est une commande ?
Et ben voilà, c'est la troisième fois qu'il se représente au Pédron. Et cette fois, banco. Il l'a. Ça, c'est la troisième présentation. La première, vous l'avez vue, celle-là. Il y en a une deuxième. Nous verrons peut-être. Et voilà, troisième, Antiochus Stratonis. Et là, ça marche. Il part en Italie 4 ans. Super. Il y a un autre élément qui est très néoclassique. Je me remets debout, j'aime pas être. Il y a un autre élément qui est très néoclassique là-dedans.
L'éclairage.
Pardon ?
L'éclairage.
Le côté clair-obscur, oui, relativement. Mais vraiment un élément iconographique. Quand on parle du néoclassicisme, ça veut dire que ces peintres, la fin du 18e et du 19e, ils se réfèrent à quoi ?
L'Antiquité.
Alors, au classicisme, c'est-à-dire ?
À l'Antiquité.
Alors, non, mais aussi à la période de Pessin.
Voilà. Il se réfère à deux choses.
Au 17e.
C'est ça. Il se réfère à deux choses. Il se réfère à l'Antiquité, rien de plus classique que l'Antiquité et les Romains. Il se réfère à l'Antiquité, c'est clair. On a une Stratonis qui est quasi une sculpture antique. Il se réfère aussi à ce qu'on appelle le classicisme, puisqu'ils sont néo-classiques. Et classique, c'est le XVIIe siècle, c'est comme vous le disiez Nicolas Poussin.
Hein, David, il a tout le temps en tête Poussin. Poussin, c'est le peintre classique, hein, classicisme français. On parlait dans certains ateliers, je crois. Hein. C'est vraiment le XVIIe siècle. Poussin, c'est le grand classique français. Or, un des tableaux les plus marquants qu'a Nicolas Poussin, c'est un tableau qui représente la mort de Germanicus, qui est un tableau où Nicolas Poussin, classique du XVIIe, hein, s'inspire de l'Antiquité. Et dans certains sarcophages antiques, nombreux, on voit ce qu'on appelle un lit funèbre, c'est-à-dire un personnage poussé sur un lit, hein, et d'autres autour, etc. Et bien, c'est ce que vous avez là. Alors, il n'est pas funèbre, là, parce que justement, Diocus, c'est pas les mots. Bon. Mais c'est quand même cette idée-là. Il y a cette idée du lit funèbre, comme ça, qui barre. Qui fait... Ça, l'idée du lit funèbre, c'est une grande idée classique. Classique dans ce qu'elle a d'antique, et classique dans ce qu'elle a de poussinien. D'accord ? Donc là, on a un tableau, quelque part, vraiment très néoclassique, pour toutes ces raisons. OK pour vous ? Alors, le tableau suivant, ben, on en a longuement parlé, hein, c'est celui-là, c'est Roque Intercède, etc. OK. Qu'est-ce qu'ils vont quand même avec ce tableau qui date donc de 80, hein. Là, il a 39 ans, 30, quelque chose comme ça. Non, non, il a 32 ans, c'est ça ? 32. Donc, il est encore jeune. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont montrer ce côté encore assez jeune dans le travail d'un tableau comme celui-là ? Qu'est-ce qui... Bon, on a vu qu'il y a été une chorégraphie, ok, c'est juste, mais il y a quelque chose, je trouve, dans cette œuvre qui montre encore un travail d'un artiste assez jeune, qui est encore près de la période où il commence à travailler.
C'est brumeux.
Oui.
La rigueur est peut-être moindre.
Oui. Il y a des choses qui peuvent faire penser à des exercices.
Oui, les visages, notamment.
Les visages. Oui, qu'est-ce que vous pensez que...
Par exemple, le jeune homme là. Qui...
Oui, mais qu'est-ce que ça a d'exercice, entre guillemets ?
Des drapés.
Oui.
Des physionomies très différentes.
Oui.
Des attitudes.
Pas super convaincu par toi. Enfin, oui, mais. Quand vous êtes un jeune peintre. Et que vous formez, qu'est-ce que vous voulez faire d'abord ?
Pardon ? Des beaucoup de croquis.
Des croquis, certes, mais quel genre de croquis ? Mettez un pot de fleurs, faites un croquis de pot de fleurs.
Des croquis rapides.
D'accord, mais encore. Les sujets, c'est quoi ? C'est une pomme, vous mettez une pomme de terre à 3 points ronds, faites un croquis, ça ? Ah, on a des modèles vivants. On appelle ça comment ? Qu'est-ce qu'on appelle ? Le jeune peintre, là, il a, je ne sais pas, 18 ans. Dans un atelier, on fait poser devant lui
des
académies. On appelle ça des académies. Hein. Et les académies, c'est ce qui permet. Alors les peintres, ils bouffent de l'académie, ils s'en foutent bien. Hein. S'il faut qu'ils puissent faire souvent des hommes, aussi parfois des femmes, de dos, de face, la tête en bas, les pieds en l'air, que sais-je. Enfin, ils doivent tout faire. Hein. Et vous avez certainement vu dans les musées de ces académias, hein, qu'elles ont des personnages nus. Parce qu'évidemment, on connaît parfaitement l'architecture du corps, les muscles, etc. Ils doivent tout connaître. Hein. Et donc, on leur fait faire, on leur fait représenter des personnages dans toutes les positions, si vous voulez. Et là, regardez le tableau devant, ben, c'est un peu ça. Vous avez là, une, deux, trois, quatre académies, si vous voulez. C'est comme si on avait fait un patchwork d'académies d'un côté des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, vous parliez également des expressions, mais c'est la même chose. Parce que dans les écoles de peinture, dans les ateliers, on fait également travailler les expressions. D'ailleurs, Poussin lui-même, à l'époque classique, il s'intéresse beaucoup aux expressions des passions. Pour Poussin, il fallait que le visage des personnages exprime quelque chose. Hein, s'il est triste, ben, comme ça, il pleure. S'il est gay, voilà. Ben, il y a un peu de ça. D'ailleurs, vous remarquez ça ici, pour ce pestiféré-là, qui est manifestement habité par une espèce de douleur terrible, ça se voit. Pas besoin d'être grand clair pour voir qu'il a un problème. Hein. Ou celui-là aussi. Et celui-là, regardez, avec son regard noir. Hein. Donc, si vous voulez, on sent qu'il y a une espèce de... C'est un peintre qui a 32 ans, mais qui a déjà fait des choses importantes. Hein. Mais il y a encore, vous voyez, ce côté un peu scolaire, entre guillemets. Entre guillemets, hein, parce que du scolaire fait comme ça. Bon. Enfin, vous voyez, c'est un peu des éléments académiques additionnés. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, le suivant, c'est ça. Et ça, donc, vous avez raison. C'était. Alors, est-ce que ça ne peut pas être le prix de Rome, parce qu'il a déjà eu le prix de Rome. Hein. Alors, c'est quoi ça? Pardon. Non, c'est pas une commande.
C'est la réception.
Alors, c'est pas la réception, c'est.
La première dose.
La première dose, c'est quoi? L'agrément. Hein. Ce que vous savez qu'il faut d'abord, si on veut, si on est un bel artiste, qu'on a eu le prix de Rome, qu'on est allé à Rome, commence à être connu, on fait des portraits des uns et des autres, on vous commande un tableau pour l'église de Marseille, et bien, ça va très bien. Bon. Les portraits, c'est là. Mais il faut rentrer à l'académie. Voilà. Bon. Mais pour ça, il faut être d'abord agréé. Vous faites un tableau, et les gens à l'académie, vos pères, les peintres de l'académie, qui eux, ils sont déjà, vont dire ah ben oui, ça vaut la peine, vous êtes donc agréé. Seulement après, il faudra faire un deuxième tableau, il faudra être reçu. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de Chardin qui, lui, a fait un tableau d'arrêt tellement bien qu'il a été agréé et reçu en un seul tableau. Hein. La phrase dernière, on a eu Fragonard, lui, il a fait le morceau d'agrément, mais pas de réception. Hein. Parce qu'il a traîné, il n'a jamais rendu, et voilà, ça a rendu fou les académiciens. Ça, ça c'est le morceau d'agrément à l'académie. Alors ça, le serment des Horaces, on en a parlé. Donc vous voyez que ça, c'est avant la Révolution, hein. 1784, c'est très très tôt, en fait. À chaque fois, on est surpris. Hein. Ce salon, je crois d'ailleurs tout à l'heure, vous l'aviez plutôt placé après. Ouais. Ben non, c'est plutôt, c'est vraiment avant. Hein. C'est une commande, en l'occurrence. Hein. Voilà. Et c'est donc un tableau, vous voyez, très tôt, hein. On est avant la Révolution, vous voyez que là, David, il a vraiment quitté. Vous vous rappelez le Mars et Minerve dans le on est vraiment. Mars et Minerve, c'était très 18e, etc. Mais on est quoi un peu plus d'une décennie après. Et vous voyez, c'est complètement. C'est pas, il a fait du chemin, le petit. Hein, vous voyez. Là, on est vraiment sur une œuvre absolument néoclassique. Hein. Là, vraiment, c'est complètement néoclassique. C'est plus déjà néoclassique comme en tant que c'est Stratonis. Hein. On est vraiment là, dans un néoclassique pur et dur. Hein. Construction très antique, très rectiligne, grand thème moral, hein, néoclassique, il ne rigole pas, hein, c'est des choses morales, le serment des Horaces. Hein, il ne s'agit pas de Minerve qui bouscule Mars par terre et Vénus qui débarque pour recouvrir Mars. Hein, on est vraiment dans du lourd. Hein. Idem avec cet autre tableau, hein, parce qu'évidemment le serment des Horaces a été quand même quelque chose de très très fort. Hein, quand il a été présenté au salon, on a dit ben, ça c'est nouveau. Hein. Donc ça a eu beaucoup de succès, donc il a eu les commandes, David, et il a par exemple réalisé cette porte de Socrate. Hein, ça vous l'aviez bien vu. Donc ça aussi, on est avant la Révolution. Vous voyez, donc c'est tôt. Hein. Souvent, comme ça, on se dit, ouais, c'est début du 19e, pas du tout, c'est fin 18e. Ok. Les funèbres, entre parenthèses. Hein.
Oui, oui, oui.
Hein, vous reconnaissez maintenant.
Mais vraiment funèbre.
Ouais.
Ah oui, parce qu'il y a...
Et là, alors on a un portrait, en fait, on est pendant le début de la Révolution. La comtesse d'Orvilliers, la marquise d'Orvilliers, voilà. Mais vous reconnaissez cette mode révolutionnaire un peu, ça, un peu, non pas négligée, mais faussement négligée, hein, très très typique. Les cheveux aussi, qui portent comme ça. Hein. Qu'est-ce qui vous frappe encore dans un portrait comme celui-là?
Le fond.
Ouais. Il est comment le fond?
Neutre. Uniforme.
Oui, uniforme. Alors, est-ce qu'il est si uniforme que ça?
Ah non, pas pourtant. Non, mais il donne.
Oui. En fait, il est monochrome.
Assez vivant quand même.
Mais très, absolument. Il est vivant. Et pourquoi il est vivant? Voilà, il y a de la touche. Alors là, voilà, on voit comme on le voit, mais il y a de la touche. 1790, hein, vous voyez là.
C'est marqué.
Un spécialiste.
Finalement, on fait en même temps un contrôle de la vue ici. Bien. Alors, ben ça, on en a parlé tout à l'heure, hein. C'est le serment des Horaces, du serment de Jéhovah. Voilà, donc un tableau que David s'est vu commander après la fameuse journée de juin 89, hein, que vous connaissez tous, dans le Jeu de Versailles. Donc on a commandé à David un tableau, il a fait des tas de croquis, il a portraituré un certain nombre de députés qui se trouvaient là, il a commencé l'énorme tableau, mais qu'il devait faire chez Pantinette. Et puis, il a mis tout en 6 mètres, puis il était très pris à cause de la Révolution. Donc, ce qu'il avait, c'est un rôle un peu politique. Et il s'y est mis, mais il n'a pas eu le temps de finir. Et finalement, aujourd'hui, on voit à Versailles ça qui n'est d'ailleurs qu'un morceau. Parce que la toile est beaucoup plus grande. Et finalement, il n'a commencé à peindre que ça. Et donc, on a découpé la partie peinte, sur le reste.
1791-12.
Ouais. C'est déjà après, hein, mais il s'est mis, il a fait d'abord le dessin, les croquis, le dessin définitif, c'est ça qu'on connaît la composition définitive, hein. Mais il s'est mis après, et voilà. Et là, évidemment, vous avez la représentation du tiers état sur le devant, clergé, noblesse, tiers état. Trois ordres, pardon. Bon, là, vous avez connu Marat assassiné. Ce qui montre quoi de la part de David, d'ailleurs, fait qu'il fasse ça, ce tableau.
Il était révolutionnaire.
Il était révolutionnaire. Pardon. Absolument. Il est même dedans. Hein. Il est vraiment dedans. Et ça a été fait pourquoi?
Pour l'enterrement de Marat?
Non.
Une sorte de memento.
C'est une sorte de memento mori, oui. Et il était fait pour. Il a été imaginé par David pour quelle occasion? Qu'est-ce qu'il voulait en faire des de ça?
Vous voulez faire un héros de la Révolution.
Alors voilà, d'abord, il fait de Marat un héros de la Révolution. Hein.
C'est l'entrée au Panthéon, non?
Non. Alors, c'est pas tout à fait faux ce que vous dites, en sens que c'est Marat qui a mis en scène la pompe funèbre. C'est Marat, c'est David qui a mis en scène la pompe funèbre de Marat. Parce que quand Marat est mort, assassiné, avant de l'enterrer, hein, on l'a exposé en public. Hein, dans une église parisienne, et dans une mise en scène imaginée par David. David a été un grand metteur en scène des fêtes révolutionnaires, fêtes au sens large. Hein, hein. Toute une série de fêtes, notamment la fête de...
La fête de la raison.
Alors, il y a eu effectivement des fêtes de la raison de l'Église Verdine, mais il y en a eu une.
La fédération
a été organisé par, mise en scène par lui, puis d'autres encore. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait des mises en scène. Mais ce tableau-là, David l'avait également réalisé pour qu'il soit à l'Assemblée. Mais à l'origine, il n'était pas tout seul. À l'origine, il y avait un deuxième qui représentait le petit de Saint-Fargeau, qui lui avait été tué dans un bistrot, un cabaret. Hein. Voilà. Et donc il y avait normalement de chaque côté du pupitre de l'Assemblée deux peintures. Celle-là, Marat assassiné, des héros de la Révolution, et d'un autre côté, le PT de la Fargeau, autre héros de la Révolution, dans un homme que David avait fait, mais qui a disparu. Parce que les descendants de PT de la Fargeau ont, après la Révolution, récupéré le tableau, sans doute l'ont détruit. Parce qu'ils n'étaient pas du tout heureux que leur ancêtre était régicide, avait voté à la mort du roi. Donc, le tableau peint par David, qu'on connaît par un dessin qui est d'ailleurs au musée de Dijon, est connu, mais par un dessin, le tableau définitif a son doute.
Pourquoi il est tableau que t'aimes?
Pardon.
Pourquoi il est tableau?
À votre avis, c'est une bonne question.
Il est mort là-bas.
Il est mort là-bas. Et pourquoi il n'est pas mort à Paris?
Ah, oh, mais il était condamné.
Il s'est exilé en fait. Hein, et pourquoi?
Il est régicide.
Oui, c'est quelqu'un qui, au moment de la Révolution, n'a pas une attitude très favorable au roi. Hein, et donc, au moment de la Restauration, il est parti. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a terminé sa vie en Belgique. Ce qu'est la Belgique actuelle. Et c'est pour ça que ce tableau qu'il avait avec lui, il est donc à Bruxelles, au Musée Royal des Beaux-Arts. Voilà. Très bien. Vous voyez, par contre, hein, on est en 99, donc ça, c'est, on va dire, la révolution finissante.
Le directoire.
Donc, ça, voilà, c'est déjà le directoire. Et. C'est un tableau évidemment qui est à placer dans la série du Sermon des Oies, etc., mais qui date de bien avant, en fait. Hein, là, on est 10 ans après, et même plus.
Hein. De l'idée de paix, peut-être.
Oui, de réconciliation.
De réconciliation.
Ouais. Parce que la France est quand même dans un état. Mais heureusement, entre guillemets, Zorro est là. Bon, vous connaissez tous ce tableau ultra célèbre. Il n'y a pas grand chose à en dire, sinon que. Oui, c'est un tableau qui est. D'ailleurs, en fait, il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais vous diriez quoi, je trouve, ce tableau? Oui, alors il y en a deux versions. Il y en a une à Versailles et une au Louvre, si vous voulez.
Ce qui montre qu'il est très, très, très
très napoléonien, entre guillemets, parce qu'il le met en scène comme un héros de l'Antiquité, déjà. Le cheval qui se cabre, lève la main, il montre la direction, suivez-moi.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, pour David, Napoléon, qui n'est que Bonaparte, est un descendant de la Révolution. Donc, il a vanté Marat, le pelletier Saint-Fargeau, peut-être d'autres d'ailleurs, et bien Bonaparte aussi. Bonaparte est le fils de la Révolution. Pour lui, il n'y a pas de prix, si vous voulez. Donc voilà, effectivement, quelque part, il le montre à la manière, d'une manière plus antiquisante avec ce cheval que antiquisante. Il y a une chose qui me frappe quand même aussi.
C'est très romantique.
Très romantique, déjà. C'est-à-dire qu'on est en 1802, et pourtant, regardez, il y a des tas d'éléments que le romantisme reprend. Notamment une chose qui me frappe beaucoup, moi. Pardon ? Il y a du vent, absolument. Hein. C'est des éléments de la nature. C'est qu'un des fers en feu des romantiques, c'est la nature. Donc là, évidemment, la nature se déchaîne. Hein, mais son grand vent d'appart, elle ne peut pas ne pas se déchaîner. Il n'a pas une petite brise légère. Il est devant celui qui va dominer l'Europe. Alors, il faut du vent. Enfin, voilà. Puis il n'y a pas que du vent. Vous avez vu les nuages derrière. Donc effectivement, il y a une espèce de fougue de passion pré-romantique. On est en 1802. Mais déjà, le romantisme est là. Ouais. OK. Et puis, bien sûr, il va arriver ce qui va arriver. Donc, ça, vous connaissez tous. Hein. Enfin, vous connaissez les deux exemplaires. Vous savez qu'il y en a un à Versailles et un au Louvre. Hein. Tous les deux, à peu près la même taille. Hein. Voilà. Le sacre Napoléon, on est bien d'accord. Et puis, il y a ça. En fait, ça, c'est après la Révolution. Ah oui, hein, on est en 1114. Alors, certains disaient tout à l'heure, ça c'est avant. C'est pas tout à fait faux, parce qu'il a pensé très tôt sur Léonidas, David. Hein. Très, très, très tôt, au moment du serment des Horaces, même, il y pense. Simplement, il a tellement, il pensait tellement par les c'est un peu le coup du serment du jeu de paume, hein, que finalement, il va vraiment le faire, surtout le terminer, qu'après la Révolution. Léonidas voilà. Au Thermopyles, c'est quoi?
C'est la bataille entre Sparte et Athènes.
Oui. Entre Sparte et Athènes
Les Perses.
Les Perses.
Perse.
Les Perses. Qu'est-ce qui se passe?
Léonidas n'a que 300 hommes.
Oui.
Contre une armée de Perses immense.
Oui.
Et il va se... Dans les Thermopyles, ben, il y a une sorte de goulot d'étranglement.
Absolument.
Ils peuvent pas le sortir, mais il va se sacrifier avec ses hommes
ouais.
Pour pouvoir vaincre les Perses.
C'est ça.
Ils partent, mais pour mourir.
C'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, les Perses, pour aller sur Athènes, n'ont pas d'autre solution que passer par le défilé des Thermopyles. Les Spartiates de Léonidas vont donc se mettre là pour, stopper les Perses. Alors, ils vont tous les massacrer, hein, il n'y aura plus personne. Mais enfin, les Perses ont été arrêtés un temps. Et ça a permis, pendant ce temps-là, à Athènes de se préparer.
Il y a une ligne qui est en travers, là, qui est bizarre.
Il y a une ?
Une ligne.
À quel endroit, une ligne ?
C'est
une
route. C'est la route.
C'est la route.
Il y a un chariot qui
monte.
Oui.
Voilà.
Ah, mais pas bien.
Demandez à monsieur l'adresse de son... Voilà, hein. Je crois que là, on tient quelqu'un. Là.
Voilà.
Et alors, là, on est en fait plutôt vers la fin. Donc, c'est l'amour et le psyché. Hein.
Il est même plus en France.
Oui, absolument. Absolument. Ouais. Donc, ça, c'est, on est vraiment à la fin. Comment vous voyez caractériser, d'ailleurs, ce tableau de la fin? Enfin, on est moins de 10 ans avant sa mort. Derrière quoi?
Qui retourne un peu à ses premières
amours.
Oui, mais je dirais qu'il y a un mais quand même.
Il y a un mais.
Bon. Quand vous dites qu'il retourne reste... ses premières amours mythologiques, vous voulez dire quoi? C'est la mythologie, d'accord.
Mais il reste néoclassique avec
le
mobilier, presque Renaissance avec la fenêtre pour reprendre.
Oui. On a un David qui finalement est sur le registre de Mars et Minerve de tout à l'heure, sur une scène mythologique un peu marrante, voilà, mais qui serait passé à la moulinette du néoclassicisme. Hein. Là, on n'a plus du tout l'ambiance. Ça, ça ne peut pas être confondu avec Fragonard Boucher, on est d'accord. On voit bien la différence. Par contre, effectivement, ce qui est curieux dans un drame comme ça, c'est que le côté un peu, comment vous dire, je ne trouve pas le mot.
Il y a un côté érotique et qu'il n'y a pas d'autre.
Alors, érotique, oui, et puis en même temps, donc il y a un côté érotique, vous avez raison, et puis c'est assez, comment dire, délacé, quoi, vraiment, quoi, c'est pas, vous voyez, c'est pas guerrier, enfin,
c'est pas guerrier.
Oui, c'est pas guerrier, voilà, c'est décontracté, décontracté. Côté décontracté, un peu rigolard, même, vous voyez, les plus sont de son vie, voilà. C'est le matin, ça roule. Voilà, vous voyez, côté décontracté, et quelque chose qui nous remet. Vous vous rappelez quand même du serment des Horaces tout à l'heure, ou de Léonidas, hein. C'est quand même pas pareil. Vous avez là une espèce de décontraction mythologique un peu légère, qui est effectivement à l'air de rebondir vers le début de sa carrière, mais avec un vocabulaire néoclassique. Vous voyez, à la fin de sa carrière, David délaye son passion dans quelque chose de plus léger, une mythologie un peu charmante, un peu galante, etc.
Bien. Alors, on va, comme d'habitude, maintenant qu'on a remis tout dans le bon ordre, regarder assez rapidement, hein, puisqu'on va en parler du répertoire, toute une série d'œuvres, que là, j'ai mises dans l'ordre, qu'on va regarder assez vite, donc ça va reprendre un peu ce qu'on a dit, ça va nous permettre un peu de confirmer ce que l'on a vu déjà. Hein, on a fait l'exercice de remettre dans l'ordre, avec un de 15 éléments, les jalons de la carrière de l'artiste, maintenant on complète un peu, on met un peu de chair autour de ce squelette. Qu'est-ce que vous diriez de ça? Ça fait penser à... Oui, parce qu'on est à la même période. Hein. Ça fait penser à Mars et Minerve. Et d'ailleurs, ce tableau, vous pensez, c'est quoi?
C'est le deuxième.
Ah, c'est le deuxième.
Ah, voilà. C'est un autre tableau qu'il a présenté. Voilà. Voilà.
De
Sénèque.
Oui, mais celle-là, elle est
disons que c'est le même thème, mais oui, au niveau de la présentation, d'abord Sénèque, beaucoup plus tôt. Là, je vous l'ai mis dans l'ordre. Hein, je ne me fais pas souffrir jusqu'au bout. Hein. Ça, c'est dans l'ordre chronologique. Donc là, les cartes sont en place. On est d'accord, hein. Donc là, vous êtes à l'époque, grosso modo, du Mars et Minerve de tout à l'heure. On est bien d'accord. Hein. Sauf que ça, c'est aussi un tableau pour le concours de Rome. On a trois. D'accord.
Les décors sont récurrents.
Oui, alors là, c'est un peu plus... On peut dire que...
Il y a deux colonnes, là.
Voilà, un grand... C'est comment dire, si on veut présenter un intérieur antique, avec Sénèque en plus, hein, faut un peu de la colonne, quoi.
Hein.
Donc ça aussi, ce tableau-là n'a pas été... Il n'a pas gagné le concours avec ça, mais ça fait partie des trois... concours qu'il présente, hein. Et il l'a donc décroché avec Antiochus et Stratonis, on l'a vu tout à l'heure. Et ça,
Saint-Jérôme.
Ça
mettre avec Saint-Roch.
Eh bien, ça mettre avec Saint-Roch. Pourquoi ça mettre avec le Saint-Roch? On a fait que c'est un Saint-Jérôme et qu'on avait un Saint-Roch, mais qu'est-ce qui fait que c'est le même genre de choses?
Pardon.
Le visage, c'est pas un portrait, hein. Le visage, d'une certaine manière, l'attitude. Et c'est quoi tout ça? C'est une académie. Vous avez une académie, mais qui est déguisée en Saint-Jérôme. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ce que vous avez là, c'est finalement ces genres de personnages nus qu'on faisait poser devant, pour des heures, hein, devant les élèves. Hein. Ils faisaient ça. Donc, on a là un artiste qui est encore jeune, mais qui utilise encore, j'allais dire un peu studieusement, le vocabulaire académique qu'il a appris dans les écoles de formation. Ok ? Et ça ? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? Le sujet d'abord ?
Le sujet, c'est classique.
Pardon ?
C'est
mythologique, ça. Enfin, oui, si on veut, mais...
Non, c'est toujours dans la guerre de Troie.
C'est la guerre de Troie.
Un petit peu mythologique.
Donc Hector est un des héros troyens. Hein. Okay. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe?
Il a été tué par Achille.
Il voilà. Hector a été tué par Achille. Le corps d'Hector a été rendu à son épouse qui s'appelle Andromaque. Et donc, Andromaque pleure sur le corps d'Hector. Voilà. Et qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce tableau-là, autrement?
Encore le lit.
Encore le lit. Alors, ça, s'il y a un tableau néoclassique, c'est bien celui-là. Hein, lit funèbre. Alors, si vous avez, vous l'avez tous, la mort de Germanicus, le poussin en tête, hein, ce qu'il faut avoir en tête, la mort de Germanicus. Vous avez la même draperie comme ça derrière, hein, le même mort, comme ça au premier plan. Donc, le poussin est encore mort. Mais voilà. Donc, oui, vous avez là vraiment le lit funèbre parfait, les gens autour. Enfin, voilà. Donc, un tableau très, très néo-antique. Et ce tableau, à votre avis, quel est son intérêt aussi? Ça, vous ne pouvez peut-être pas le deviner. Mais... qu'on pourrait mettre en lien avec le Bélisaire de tout à l'heure. On avait dit que c'était quoi le Bélisaire?
Le général.
Oui, mais dans l'histoire des œuvres de David. Pardon?
Pour l'Académie.
Et donc celui-là, ce serait quoi?
C'est son truc de réception.
C'est son truc, son morceau, ce qu'on appelle ça le morceau de réception. On a vu l'œuvre qui lui a permis d'être agréé, Bélisaire. Après avoir été agréé, il faut être reçu. Donc il faut montrer ce qu'on appelle un morceau de réception. Ça, c'est le morceau de réception. Il a été reçu à l'Académie.
Et il a vu le même petit gamin qui était dans les bras du guerrier.
Oui, c'est un peu la même chose, d'une certaine manière. Oui, oui. Il s'est retourné, c'est un peu. Ok.
Avec ses modèles sur le Abel
Lavoisier. Une couple célèbre, hein, qui montre quoi? Donc un couple, voilà, un personnage scientifique s'il en est. Que...
ce sont des portraits sublimés.
Alors, c'est des portraits sublimés vraiment? C'est comme ça que vous les ressentez?
Oui, moi je trouve ça extraordinaire.
Ah ben, c'est magnifique, hein. Je ne sais pas si c'est si sublimé que ça, parce qu'en même temps, ils sont présentés d'une manière un peu, comment dire, dans une sorte de quotidien.
Oui, c'est vrai.
Alors, c'est vrai qu'il y a, j'allais dire, c'est presque trop parfait pour être honnête. C'est peut-être ça que vous voulez dire sublimé. Hein. Mais vous voyez, ils ne sont pas là, un peu posant devant le photographe. Hein. Elle est là, elle met la main sur l'épaule de son mari, lui en train d'écrire son expérience, elle arrive, il la regarde parce qu'elle le dérange entre guillemets. Enfin, voilà. Il y a un côté aussi un peu vie quotidienne, mais chic. Hein. C'est chic.
Il était fermier général.
Pardon?
Il était fermier général, donc il avait les
moyens. Quelqu'un, qui n'est pas n'importe qui, oui.
Pas le chercheur.
Ouais, ouais. Mais ça montre quoi aussi par rapport à David?
Qui s'intéresse aux personnages
importants.
Voilà. Une vie normale.
Pardon?
Une vie normale.
Oui, oui, oui. Et ils s'intéressent à des personnages importants, pourquoi?
Parce qu'ils vont dans la société.
Pardon?
Ils grimpent dans la société.
Oui, mais ils vont en envie de s'intéresser à des personnages importants, mais bon.
Ils peuvent plus payer les tableaux.
Pardon?
Ils peuvent plus payer les tableaux.
Oui, en fait, c'est parce que ces personnages-là, ils le lui demandent.
Oui,
c'est pas tant lui qui s'intéresse à un personnage important, sans doute, c'est le personnage important qui s'intéresse à lui. C'est plutôt l'inverse. David, il a fait le sermon des Horaces. Waouh, il a fait un tableau incroyable, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Membre du salon, sermon des Horaces, tout le monde s'est dit oh, c'est incroyable ce truc. Tout le monde voulait avoir un tableau de David. Alors, son portrait par David, ça le fait. C'est... Donc, évidemment, tout le monde veut avoir un tableau de David. Donc, à Lavoisier, il ne va pas demander à Bidule, on demande à David. Tout ça, c'est Ça ne va pas empêcher plus tard que Lavoisier soit guillotiné, hein, et que David soit parmi ceux qui étaient justement du côté des guillotineurs. Hein, mais bon, voilà. Pardon ? Alors, sommes l'année même du déclenchement de la Révolution. Oui. Alors c'est évident que là, le lit funèbre qui devrait être devant la draperie, hein, ces draperies-là, c'est très poussinesque. Hein. Ben, pouf, le mort, il est sur le côté. Il n'y a pas un mort, il y en a deux. Il y en a un là, il y en a un autre là, mais qui est déjà parti dans le... Qu'est-ce qui se passe? La scène, c'est quoi?
Brutus a fait tuer ses fils.
Oui, et pourquoi?
Parce qu'ils avaient trahi la République.
C'est ça, absolument. Brutus a deux fils, ses fils... Et lui, il est tout à fait républicain, il avait un rôle politique important. Or, ses deux fils ont conspiré contre la République. Donc, Brutus a appliqué contre ses fils la loi République, c'est-à-dire qu'il les a fait tuer, décapités. Et on ramène là, à l'Antique, à la Romaine, hein, les corps des deux enfants de Brutus, décapités, dans la maison familiale, c'est ce qu'on voit là. C'est radical, hein. Ça pourrait être néoclassique, c'est vraiment néoclassique. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment un thème fou. On est en déclenchement de la révolution, un thème radical. On ne trahit pas son pays. On ne trahit pas la République. Vous voyez, c'est assez clair. Hein. Ça aussi, c'est un tableau qui a fait grand bruit. Hein. On comprend.
Après, pas étonnant qu'ils aient décapité Louis XVI et Marie-Antoinette.
Et ça.
Alors, c'est une préparation pour le tableau pas terminé.
C'est ça. Ça, c'est effectivement une préparation pour le serment du jeu de pauvre. Ça, vous voyez là, c'est un des tableaux qu'a fait David. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de monde dans le jeu de pauvre. Hein. Donc, David, il a eu à aller voir beaucoup de gens. Il n'est pas allé voir tout le monde. Hein. Il a fait plein de croquis, etc. Voilà, le temps qu'il a fait ça, c'est autant de temps qu'il n'a pas pris pour faire le tableau définitif. Donc, on a pas mal d'esquisses, de dessins, croquis et tableau définitif. Vous voyez dans quel état il est resté. D'accord ? C'est pas beau, ça.
Ben, ça n'a rien à voir avec le tableau qu'on a vu précédemment de Madame Beaune. Donc, le fond avec un fond très coloré,
Oui. Alors, je ne dirais pas que ça n'a rien à voir, parce que je crois que celui-là fait plus d'effet à cause du fond rouge. Donc, moi, je trouve extraordinaire. C'est un métabo prévédéil, pour ma part. Je trouve que c'est admirable, vraiment. Alors, là, vous parliez tout à l'heure de fond vibrant. Vous avez vu ça? C'est incroyable. C'est un tableau extraordinaire.
Là, il se camoufle un peu des ennuis de la Révolution.
Oui.
Et c'est quelqu'un chez qui il est reçu.
Absolument. Alors, c'est quelqu'un. Les Trudaines étaient des amis de David, mais avant le vent a tourné, et David a été de ceux qui a voté leur mort. Et certains ont dit d'ailleurs qu'il avait peint ce tableau avec le sang de ses victimes. C'est pas vrai, mais ce qui est vrai sur le plan moral. C'est-à-dire qu'il était. Et à la Révolution, vous savez, on se faisait des amis rapidement, et puis les amis, on leur tournait le dos vite aussi. Quelquefois, valait mieux, d'ailleurs. Parce que c'est quand même une période compliquée. Mais c'est un tableau. Et moi, je pense qu'il est quand même plus près de la marquise d'Orvilliers qu'on a vu tout à l'heure. En sens que c'est le même positionnement un peu nonchalant. Vous voyez, c'est pas. Voilà. Elle est dans une tenue très convenable, hein, mais un peu. De tous les jours, si vous voulez. Hein, mais correct. Hein. Simple, parce que ça, c'est la mode de l'époque. Pas de chichi, et puis c'est l'idée d'une antiquité revue. Hein. Et puis il y a la même idée d'un fond unicolore, là il est rouge donc ça match, hein, mais un fond unicolore, et le personnage qui est devant, il n'y a pas, y a rien pour, vous voyez, pour gêner le. Alors là c'est rouge, donc vraiment le rouge, fou, ça y va quoi. Mais.
C'est plus léger que la marquise de tout à l'heure.
Alors c'est plus fait à la touche. Vous voyez, voilà, la marquise d'Orvilliers, c'est un tableau plus voilà, terminé, etc. Mais c'est un tableau extraordinaire. Alors là, vous avez aussi un portrait plus terminé. Donc tout ça pour vous montrer hein, que David, on l'a vu à partir de Lavoisier, avant la Révolution, mais pendant aussi, c'est quelqu'un qui va petit à petit faire son trou et. Si vous voulez, faire un portrait de plein de gens. Ça, c'est un docteur, un médecin assez célèbre du temps. Vous voyez ce côté appareil qui montre sa vie quotidienne, ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis. C'est qui ? Oui, mais c'est qui, Madame Récamier ?
C'est une lyonnaise.
Ah, je ne sais pas.
Je croyais que j'ai
une c'est possible. C'est
ouais. C'est la maîtresse de Becker, oui. Oui, c'est la maîtresse.
Oh oui, elle a dû être la maîtresse de plusieurs. Oui. Mais qu'est-ce que vous auriez à dire ?
Elle tenait un salon.
Elle tenait un salon extra. Il fallait être du salon d'honneur et gagner. C'est une des femmes qui, à Paris, vraiment, très, voilà, une femme d'esprit, très... Et tout le monde passe par le salon, notamment Madame Rigaud.
Une influenceuse.
Voilà. Voilà, c'est ça.
Bravo, Michel.
Il y a le meuble et il y a surtout cette, ce porteur de lumière.
Oui,
je ne sais pas comment l'appeler.
Oui. Un trépied, en tout cas. Oui. Ouais.
Et il n'est pas fini, probablement.
Alors, on a beaucoup discuté de ça, parce que vous vous rappelez que le portrait de Mme Truden qu'on vient de voir a un fond comme ça, etc. En fait, au départ, on a pu dire, tiens, oui, un peu... Comme on a pu dire parfois pour certains Fragonard, c'est pas tout à fait fini, etc. En fait, il y a un goût du non-fini aussi, enfin, du non-fini entre guillemets. Ce qui peut paraître non-fini. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui, en fait, est un exercice de style, plus qu'une non-finition. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est fini, mais ça n'a pas l'air de l'être. Et c'est ça qui est chouette.
La robe aussi, la robe ne paraît pas très travaillée.
C'est plus une esquisse poussée qu'un tableau absolument. D'ailleurs, c'est pareil pour le mobilier, notamment ça dont vous parliez. Effectivement, il y a un côté, il y a l'excitation de l'esquisse pas tout à fait aboutie, vous voyez, qui montre le fa presto, la main du peintre. C'est un côté un peu graphique aussi.
Beaucoup de ces tableaux sont très frontaux.
Sont très.
Il y a une grande frontalité, c'est toujours parallèle au bord.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Très souvent.
Alors même si le personnage est souvent de côté, mais il y a. En tout cas, il y a une certaine rectitude, on pourrait dire, oui. Beaucoup de simplicité aussi. Vous remarquez que là, derrière, il n'y a rien. On a vu ça chez D'Orvilliers, chez Truden, etc. Hein, le fond. Il n'y a pas de bricoles qui viennent nous ennuyer les yeux. Hein. Bon, ça, c'est un tableau qu'on situe évidemment bien, hein, mais vous le mettriez à côté de quel genre de tableau? Le sacre. Voilà. Il fait à peu près la même taille. Hein. Ça fait partie de ces grands tableaux qui, à l'époque impériale, marquent ce David qui chante la gloire de Napoléon.
Là, au contraire, le portrait est bien fini.
Eh oui, voilà. C'est-à-dire que là, on est vraiment, absolument, là, on est alors dans cette espèce de confinage qui montre vraiment un de changement de braquet. Hein. C'est-à-dire que, et vous voyez comme tout ça est
bien. Les détails.
Absolument. On est loin de Madame Récamier, on est pourtant pas loin dans le temps. Mais il y a un peu comme ça de. Il va aller de plus en plus vers ça, dans ses portraits, comme dans les. Hein, une espèce de fini, comme ça, qui est. Oh, il y a des choses un peu plus. Ça, c'est Alexandre Lenoir, ça vous dit quelque chose? Oh, vous devriez le connaître. Pardon?
Il a déjà la Légion d'honneur.
Oui, il est décoré, effectivement.
C'est pas à l'origine du Louvre.
Alors, pas tout à fait le Louvre, c'est lui qui a créé le musée des monuments français. Vous savez, Lenoir, c'est celui qui a la Révolution française. C'est souvent interposé au niveau des révolutionnaires, hein, pour éviter que tout soit complètement pété. Hein. C'est lui qui est allé à Saint-Denis, qui a évité que tous les gens des rois de France soient détruits, etc. Et c'est lui qui a créé, dans ce qui est aujourd'hui l'École nationale supérieure des beaux-arts, le musée des monuments français. Et effectivement, après son démantèlement, beaucoup des œuvres sont allées au Louvre, où on retournait à Saint-Denis. Hein, voilà. Donc Lenoir, c'est un personnage pour ça qui a été décoré. Hein. Qui demeure très courageuse, hein, parce qu'avec les révolutionnaires à Saint-Denis qui étaient en train de casser les tombeaux des rois, il fallait un peu de courage. Hein. Donc il est allé pour leur dire, écoutez, non, arrêtez, c'est ridicule, vous êtes en train de priver la nation, chose importante plus tard. Et il a été largement entendu, mais grâce à une conviction remarquable, c'est un personnage important.
Il y a deux décorations qui ne correspondent pas, si je puis dire. Parce que l'une, c'est une branche, c'est la Légion d'honneur, et l'autre.
Ouais. Alors, c'est pas là entre deux. Ça fait penser à la croix.
C'est à Saint-André ?
C'est pas la croix de. Moi, je suis nul en décoration.
C'est bizarre.
Enfin, là, le genre d'honneur, ça va, mais le reste.
Oui, mais 1817, là, on est déjà sous la Restauration. Oui. On a pu reprendre des ordres anciens.
Oui. Mais ça doit être. Oui. Voilà, je suis incapable de vous dire. Je suis nul.
C'est marrant,
ça. ça vous rappellerait quelque chose?
Oui,
la psyché.
Et Eros, avec Cupidon.
Cupidon.
Il y a cette mythologie mignonne, charmante. Mais voyez, avec ce côté précis maintenant que la vie est cette mythologie un peu. Enfin, j'allais dire, c'est genre un peu gnangnang, vous voyez ce que je veux dire? Pardon?
Pour le thème, mais je trouve la peau, on a l'impression qu'on va la toucher.
Ah oui, oui, ah bah oui, il y a un côté, ah oui, absolument. Il y a un artiste très vite après qui va beaucoup s'intéresser à ça.
C'est
bien, ça, bon, c'est un.
Mais c'est un élève.
Absolument. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Sinon, c'est de ces portraits, cette fois, beaucoup plus léchés, précis. Enfin, voilà.
Un peu moins.
Oui, un peu moins. Mais enfin, on sent bien qu'on est à la fin. Quoi. Et puis alors, le dernier, très typique. Hein.
Oh là.
Oui, hein. C'est entre Hollywood et Bollywood. C'est très très curieux. On dirait du Cécile B2000, revu par metteur en scène indien.
Il a repris un de ses anciens tableaux où il y a aussi Mars et Vénus. Vénus qui met pas.
Il y a Vénus aussi, mais Minerve.
Oui, et Minerve. Et là, c'est toujours. Ce qu'il aime, c'est ses sujets de prédilection.
Ah oui, il reprend un peu en creux hein, le thème de tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, c'était le moment où Mars était par terre, où Vénus venait aider son petit copain. Quoi, hein. Là, ils sont très copains, effectivement. Et vous voyez qu'il y a même Amour qui est en train d'enlever les sandales de Mars. Hein, voilà. Et derrière, les suivants de Vénus sont en train d'enlever tous les armes de Mars pour qu'ils pensent un peu à autre chose que la guerre. Hein. Et voilà, et tout ça pour un temps, l'antiquisant, enfin. Dans les cieux. C'est donc cette mythologie galante hein, qui le travaille à la fin de manière comme ça, très précise. Très... Ça, c'est très typique. Ça fait penser au serment des Horaces au niveau du fer, et pas du tout au niveau de ce que ça dit. Au niveau du fer, c'est pareil. C'est aussi précis, etc. Hein. Mais donc, du fait de la technique, si vous voulez. Mais au niveau de la. Là, vous êtes devant pas du tout une scène grandiose et noble, si j'ose dire, digne. Vous êtes devant une sorte de cucuterie de logique.
Oui, très cucu.
Si vous permettez cette.
Oui, très cucu.
Le linteau, on dirait qu'il y a des idéogrammes chinois.
Alors, c'est des palmettes de deux types qui sont alternées. On trouve ça dans l'Antiquité, mais c'est un peu trop schématique, trop beau pour être vrai.
Oui, c'est très frontal.
Oui, oui, alors oui, puis alors ces petits nuages, enfin, c'est ça a un côté pop art, c'est du pop art. Je vous montre, avant qu'on termine avec le ni oui ni, enfin le oui non, je vous montre une œuvre, voilà, qui, vous savez, à chaque fois je détache une œuvre spéciale, particulière, un peu étrange, c'est celle-là que je vais vous montrer, La mort du jeune Barat, c'est quoi ça?
Exactement. Près de Chauvet, je
crois. C'est ça, dans l'ouest de la France.
Qui a fini au Panthéon.
C'est ça. Barat était finalement un jeune légionnaire d'une douzaine d'années, hein, qui a été tué par les chevaux. En fait, il gardait des chevaux, d'un certain nombre de sans-culottes, peut-être, un très légionnaire. Les gens lui ont tombé dessus et l'ont tué. Et donc là, c'est la mort du jeune Barat. Il tient d'ailleurs dans sa main une cocarde que vous devinez peut-être là. Et ça, c'est un tableau que David n'a pas terminé pour le coup. Pour ça qu'alors là, pour le coup, c'est du bronzé parce que c'est pas. C'est un peu comme le serment du jeu de paume de tout à l'heure. Ça vous rappelle quel autre tableau de David? Ce Marat. Ben, je crois que ça rappelle Marat. C'est exactement à la même époque, c'est pour la même raison. C'est deux héros révolutionnaires, sauf que là, c'est pas fini. Mais ne finissez pas Marat et vous avez ça. C'est-à-dire que là, vous avez l'esquisse non habillée, parce que quand vous êtes un bon artiste, vous faites d'abord le personnage tout nu, puis après vous l'habillez.
Oui.
Comme ça vous faites. Donc là, il fait le bar à nu, mais il va l'habiller après. C'est comme pour le savon je pense. Habillez-moi le savon je pense, c'est plus des sans-culottes. Comment est-ce que je veux dire? Donc ce que vous avez là, c'est exactement la même période que Marat, c'est la même idée. C'est la même idée que le Pétain Saint-Fargeon, c'est des icônes révolutionnaires. Ça va le tableau et pas finir que Marie finit, c'est tout. Vous finissez ça, vous avez la même chose que Marat. Qu'est-ce que je veux dire?
Pardon, il faut pas comme ça.
Ah oui,
faut pas.
Ça va, on va pas finir.
Mais c'est curieux,
la très bizarre. Très, très bizarre.
On dirait qu'elle est.
Très très bizarre. Ah, c'est très curieux.
Moi aussi, ça fait un moment que je regarde.
Ah, ben, oui, ah c'est très très bizarre. C'est très curieux. C'est toujours trouvé ça bizarre.
Il passe au-dessous et on
voit le. Mais c'est l'idée. Marat est systématiquement, si vous voulez, invité à faire l'iconographie de la Révolution. C'est lui qui a organisé les fêtes révolutionnaires, c'est lui qui parle les héros de la Révolution. Marat en est un, comme Marat, comme le bien-être des femmes. C'est autant d'éléments qui doivent peupler l'imaginaire révolutionnaire. Alors maintenant, nous terminons par oui-non. On est prêts? On s'arme de courage? Eh bien, on y va.
Oui.
Ouais. Tout le monde est d'accord ?
Oui,
le fond.
Bravo. C'est lui. Madame de Pastoret. Magnifique tableau qui fait penser à Madame Truden.
Oui, oui, c'est ça.
Toujours ce faux pas fini. Parce que là, c'est du fini, mais qui n'a pas l'air de l'être. On est d'accord ? Comme Madame Truden.
Oui.
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 Ça représente quoi? Ah, il y a l'amour. L'amour de ces deux-là, à vrai dire, sans doute. On a une idée de qui c'est, ces deux-là?
Non.
Alors, c'est utile de le savoir. Hein. C'est Fan et Sappho. Sappho, c'est une poétesse grecque, légendaire, d'ailleurs, hein, à qui on fait... Enfin, il y a des tas d'histoires très différentes les unes des autres. L'une d'elles étant qu'elle serait tombée amoureuse de Fan, Tilt, ce que vous voyez là, hein. Sauf que Fan après l'a trompé, l'a rejeté, et que sa faute de douleur s'est jetée à Leucate dans la mer pour suicide. Donc, David ?
Non.
Il y avait des oui tout à l'heure.
Non.
Alors c'est plutôt oui, c'est plutôt non.
Non.
C'est oui, non.
Non.
Eh bien, c'est oui.
Voilà.
Ça fait beaucoup penser à Cupidon et Psyché. C'est le même genre. Et ça? Voilà. Rien à voir. On est d'accord.
Hein.
À vrai dire, c'est le seul paysage de la vie. C'est pas compliqué, il a fait un paysage. Le voilà. Pourquoi il a fait ce paysage? Pardon? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce paysage? De Luxembourg, un paysage un peu. Pour le paysage.
C'était une commande?
Pardon?
C'était une commande?
Non.
C'est quand il était en prison?
Oui. Il est en prison. En prison, on n'a pas forcément les paysages que l'on veut. Ben, il fait ce qu'il voit. Il est emprisonné au Luxembourg. Et ben, il fait le paysage qu'il voit par sa fenêtre. C'est pas terrible, mais enfin voilà. C'est le paysage de David dans la page 50. Ne dites rien. Oui, c'est
trop tard.
Trop tard. Il avait vu.
On aurait vu.
Oui, tout le monde aurait vu là, parce que là, ça se voit bien. J'ai pas fait attention, pourtant j'ai regardé. Voilà, voilà. Donc ça, c'est elle. Et il y a toujours ce côté que vous évoquez, un peu assez frontal, enfin voilà, hein, toujours le fond, il n'y a rien, on n'a rien, mais là, c'est le faire non pas faussement, pas fini, d'accord, c'est le faire fini de David. Vous voyez ce que je veux dire? On a vu qu'il y avait deux types de.
Non.
Ça rappelle un peu Marseillais, hein.
C'est trop confus.
Lui, il centralise plus. Oui, il centralise plus, donc. Bon, donc c'est pas ça. Et voilà, c'est lui. Et ça dit, vous avez. Alors, ça, on est assez au départ. Hein. Donc, c'est un moment où il y a encore, vous voyez, dans l'espèce de paroquisme rococo, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un tableau qui est un assez grand tableau en largeur. Ah, oui. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez étonnant. Hein.
Ah oui, mais non, oui. Non, c'est pas les mêmes corps. C'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes profils.
Et puis c'est machin galaté, là.
Oui, c'est quoi le sujet?
Comment ça s'appelle? La tété au bout de la vie d'amour.
Ah oui, il y a un amour entre les deux.
Et Rémi.
Ouais. Alors c'est l'histoire de quoi?
D'une nymphe et d'un dieu.
De la statue qui devient.
Eh oui, oui. C'est une statue qui s'anime. Ça, c'est le sculpteur qui a fait une statue. Le problème, c'est qu'il devient amoureux de sa statue.
On l'a vu.
Ça, c'est limite, hein, devenir amoureux d'une statue. J'imaginais. Hein. Eh bien, les dieux vont faire, puisque Pygmalion.
Pygmalion, c'est ça.
Pygmalion, l'expression de Pygmalion est tellement amoureux de sa statue que les dieux vont animer Galatée. Pygmalion amoureux de Galatée. Et c'est donc
non, pas la ville.
Non. Pas la ville.
C'est sûr.
Oui.
J'aurais insisté.
Oui, c'est sûr.
Eh ben, vous avez raison.
C'est Gironde. On l'a vu il n'y a pas longtemps.
Ah, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Ah, c'est moi qui voulais vous. Mais je sais plus ce que je vois. Ah, une belle scène, bien. Bon, donc ça vous va. Vous avez raison. C'est François-André Vincent, qui est son challenger. Il y a un peu comme ça deux personnalités à la fin du XVIIIe qui se bataillent pour la première place. C'est David et Vincent. En Vincent, il est très peu connu. C'est assez connu. Alors oui, j'entends plutôt oui.
Oui. Avant la révolution. Oui, avant la révolution.
Ah, comme la petite date de tout à l'heure avec son bouquin là.
C'est avant sa révolution et la coiffure.
Donc, un David tôt, si je comprends bien. Ça vous va, ça?
Oui.
Un David tôt.
Oui.
Bravo, c'est un David tôt. C'est même sa belle-mère.
Mais c'est encore Bélisère.
Ah bah oui, c'est Bélisère encore. Une autre version. Quoi.
Oui. Non, Bélisère, mais c'est pas un nom.
Non. Ah, et voilà un beau David à venir.
Non, les corps ne sont pas comme ça.
Les peintures ne sont pas pareilles.
Non, c'est bien.
Donc, non. Et voilà, c'est David. C'est un David typique, ça. Bien, alors on essaie de se rattraper en me disant ce qu'il en est de ça.
Dans l'église Saint-Vincent.
Absolument.
Et il n'y a pas très longtemps qu'on en est sûr.
Alors c'est David ou pas David?
C'est David.
Je pensais que personne ne le connaîtrait, c'est pas possible. C'est David, c'est un tableau qui est à côté d'ici.
Dans
la cathédrale Saint-Vincent.
À Mâcon.
À Mâcon. C'est bon.
Oui, il n'y a pas plus protégé que ça.
Pardon ?
Il n'est pas plus
peut-être que le tableau est protégé.
Oh, ben, il est... Si, si, ça va. Enfin,
mais s'il est en hauteur,
ça... Oui, non, non, ça...
Il est grand, peut-être.
Oui, ah oui, c'est grand. Hein. C'est grand.
Ah,
c'est
pas un signe.
Ah,
non, il y a un paysage derrière.
Le fond.
Non, c'est le fond qui va pas.
Non, c'est le fond.
Ah, c'est quand même...
C'est le visage.
Non, le fond va
pas. Non, on ne va pas, c'est le visage.
Non, ça ne vous va pas. Ça, c'est pas tout à fait pareil quand même. Donc oui. C'est même un tableau qui appartenait à une collection chalonnaise pour tous les
noms.
Et pourquoi il vient de Londres alors ?
Ben,
il
y a des gens qui vendent leurs tableaux. Très bon tableau. Voilà.
Non, c'est pas l'incarnation habituelle.
Pas l'incarnation habituelle. Bon, à vrai dire, vous avez raison. C'est viens, viens, ça vous dit quelque chose ? Viens, vous dit quelque chose ? Ah si, ça doit vous dire.
Il a été à Rome.
Oui, il a été à Rome.
Il a été directeur de, la
de l'académie. Et d'ailleurs, il a été le directeur de l'académie au moment où David y était. Absolument. Et puis, viens, on n'en a pas parlé la dernière fois. Ah bon, moi, je prends quoi chez Fragonard ?
Les tableaux après que
Madame Dubarry. Exact. Vient, c'est à vient de s'adresser Madame Dubarry quand elle a refusé les tableaux Fragonard. Vous savez, pour l'art, ils sont à Free Collection aujourd'hui. Hein, pour son papier Louvre-Sienne, elle s'est tournée vers Vien. Voilà. Presque fini.
Oui.
Cérisien. Hein.
Cérisien.
Très bien.
Oui,
monsieur. Ouais. Oui. Castagne.
Oui.
C'est l'académie. Alors, souvent, on lui a donné des noms pour ne pas mettre Académie d'hommes. On disait, ben, bah, pas trop, par exemple.
Non.
Bah, c'est Madame Récamier debout. Hein.
Je n'insiste pas.
Voilà. C'est gros. Comme une maison.
C'est marqué.
Oui, mais ça peut être une signature apocryphe.
1813.
Non, alors c'est pas sa femme, c'est quelqu'un de sa famille. Alors voilà, on termine par un petit tableau. Vous savez, souvent je montre à la fin un ou deux tableaux de synthèse, entre guillemets, qui quelque part résume plus ou moins l'œuvre. J'ai trouvé celui-là, qui est une découverte récente, un tableau qui était inconnu, qui a été loué à une collection privée il y a quelques années. Voilà. Que l'on si cher abandonné. Et je trouve que finalement, il contient beaucoup de choses de David, le sujet, à l'Antiquité. Vous savez que Psyché a donc été abandonné par l'amour. D'ailleurs, on a vu toi, Jo, tout à l'heure, l'amour qui partait. Voilà. Donc elle est malheureuse.
Elle s'est jetée dans l'eau.
Voilà. Il y a quelque chose à la fois de ce fini, non fini qu'on a vu. Hein. Il y a quelque chose d'antiquisant, mais pas seulement. On dirait un portrait, mais ce n'en est pas un. Enfin voilà. C'est un beau, je voulais. C'est un peu une découverte récente autour de David. Et voilà, je voulais vous montrer un peu comme une œuvre qui.
On en est à preuve.
Ah oui, c'est tout à fait sûr. Oui, parce que les archives, si on parle. Il est tout à fait certain.
Mais l'eau est un peu spéciale.
L'eau est impressionniste. Mais c'est un tableau pas vraiment achevé, sans doute. Et voilà. Mais chez David, quelquefois, on hésite un peu. Et alors, le visage est plus poussé que le reste.
Que le reste du corps.
Donc c'est... Il monte en gamme, et puis là, il s'est arrêté. Et ben voilà, ça sera terminé pour aujourd'hui. Merci.
Vous avez été superbe, comme on entend.
La semaine prochaine, si je ne m'abuse, on est autour d'un thème nouveau. Oui. Et là, j'en ai un.